L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 17h30. Nous sommes le 23 février 1954, au cœur du quartier noir de Louisville, dans le Kentucky, aux États-Unis. Cassius Marcellus Clay, un jeune noir de 12 ans, sautit sur place. Il a froid. Il a froid, mais surtout, il est très en colère. On vient de lui voler son beau vélo rouge et blanc. Il se rend au commissariat pour déposer plainte et raconte à l'officier de police son intention de retrouver le voleur pour, selon son expression, lui foutre une raclée. Le jeune Cassius ne le sait évidemment pas, mais ce jour-là, il a rendez-vous avec son destin. Joseph Martin, le policier en question, commence par sourire en voyant ce genou prêt à en découdre. Il lui dit qu'il ferait mieux de commencer par apprendre à boxer avant d'aller se battre avec le premier venu. Voyant le gamin très énervé, il rajoute qu'il est même disposé à lui donner des cours, vu qu'il est lui-même entraîneur et que le sous-sol du commissariat est une salle de boxe. Quelques semaines d'entraînement plus tard, le jeune Cassius Marcellus Clay monte sur le ring et remporte la première d'une très longue série de victoires en appliquant déjà à la lettre la tactique prônée par ce premier mentor. Voler comme un papillon et piquer comme une guêpe. Aujourd'hui, je vais vous parler de celui qui deviendra non seulement un immense champion 10 années plus tard, mais aussi une des figures emblématiques de la communauté noire dans sa lutte pour les droits civiques. Sans aucun doute, sa légende a commencé à s'écrire suite à cette rencontre avec Joseph Martin, ce policier, qui était sur sa route en cette fin d'après-midi, ce mardi 23 février 1954, vers 17h30. Une rencontre qui va sceller son destin. 17h30, l'heure H de mon histoire. Vole comme un papillon et pique comme une guêpe fera sa légende. Plus encore, ce sera son mantra tout au long de sa vie. Cassius Clay crée ainsi son propre style, tournoyer sans cesse autour de son adversaire avant de le surprendre en décochant des coups fatidiques. Autant que le boxeur doté de dons uniques, d'une technique très pure, d'une étonnante mobilité et d'un punch au-dessus de la moyenne, l'histoire retiendra l'homme qui a bouleversé les conventions sur et en dehors du ring. Son sens de la formule, son instinct de grand communicateur, son goût pour la provocation et son combat permanent contre l'ordre établi participeront à sa légende. Des boxeurs hors normes, il en a eu quelques-uns dans l'histoire, mais aucun ne peut se targuer d'avoir autant marqué son époque que Cassius Clay, mieux connu sous le nom de Mohamed Ali, triple champion du monde de sa catégorie. Ali est un homme très engagé. Il alla au bout de ses idées, quelles qu'en fussent les conséquences pour sa carrière. Il fit énormément pour la cause des Noirs, dans un pays où les droits de la communauté afro-américaine étaient très loin d'être acquis. Mohamed Ali est né et a vécu dans l'un des 13 États ségrégationnistes des États-Unis, où dans le bus, il y avait la section pour personnes de couleur. Dans les magasins, les Noirs ne pouvaient pas essayer les vêtements. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas voter. Icône universelle, Ali va incarner la lutte pour la justice. Sa grande gueule a toujours été sa marque de fabrique, que ce soit pour défendre une cause ou pour haranguer ses adversaires avant chaque combat, et même sur le ring. Ses punchlines sont légendaires. I'm the greatest, je suis le plus grand. Ou encore, je suis jeune, je suis mignon et je suis totalement imbattable. Rome, 1960. Ali devient champion olympique des poids mi-lourds aux Jeux Olympiques. Il a 18 ans. Il gagne l'or dans un pays où la ségrégation raciale n'existe pas, contrairement au Kentucky d'où il vient. Quand il revient aux États-Unis, auréolé de son titre, il pense naïvement qu'être champion changera les choses. Mais non. Dans un restaurant, un homme blanc au comptoir lui dit « On ne sert pas les tiens ». Ali, qui s'appelle encore Cassius Clay, serre les poings et sent la colère monter. Champion ou non, cette Amérique-là n'est toujours pas prête à l'accueillir avec le respect auquel toute personne devrait avoir droit. Il est blessé, il est humilié. De rage, il arrache la médaille d'or de son cou et la jette dans la rivière Ohio. Cet événement fera de lui une cible toute trouvée pour la Nation of Islam, qui lutte contre le suprémacisme blanc, mais nous y reviendrons. Pour la petite histoire, c'est 36 années plus tard, aux Jeux Olympiques de 1996, que le comité olympique lui remet une deuxième médaille d'or en remplacement de celle disparue. Invité d'honneur, c'est lui qui allumera la flamme des Jeux du centenaire à Atlanta, cette grande ville du sud des États-Unis où 30 ans plus tôt, la ségrégation régnait, tout en symbole. Cassius Clay enchaîne ensuite les victoires sous la houlette de son entraîneur Angelo Dundee, jusqu'en février 1964, date de son premier grand rendez-vous avec l'histoire. 25 février 1964. Convention Hall, Miami Beach. La ségrégation raciale est toujours de mise dans cette ville du sud de la Floride. La loi l'abolissant ne sera signée que 4 mois plus tard par le président Lyndon Johnson. Cassius Clay doit rester dans un hôtel réservé aux Noirs. À 22 ans, il défie le champion du monde en titre, Sonny Liston. Malgré 19 victoires, dont 15 par KO, Cassius Clay n'est vraiment pas considéré comme un adversaire à même de vaincre Liston, alors jugé invincible. Sonny Liston, un ancien bagnard qui travaillait pour le crime organisé en tant que briseur de jambes. Ce combat ne doit être qu'une formalité pour le tenant du titre et devrait se régler au premier round. Mais c'est la surprise. Le jeune Cassius Clay impose avec brio sa rapidité et son jeu de jambes parfait. Liston se blesse même à l'épaule à force d'envoyer ses coups dans le vide, puis abandonne à la 7e reprise. Cassius Clay est champion du monde pour la première fois. Si, comme d'habitude, il fait le show sur le ring en invectivant son adversaire, le spectacle est aussi dans la salle. Un homme grand et silencieux s'est installé sur le siège numéro 7 de la 7e rangée. Impeccablement vêtu d'un costume sombre, d'une cravate et d'une chemise blanche immaculée, il suit le combat avec beaucoup d'attention. Cet homme à la taille imposante se nomme paradoxalement Malcolm Little, un nom qu'il a changé en Malcolm X. Il est l'ami et le mentor spirituel de Cassius Clay. Juste avant le combat, il s'est rendu dans les vestiaires pour parler avec lui et prier. Malcolm l'a encouragé à croire qu'il devait amener avec lui sur le ring le pouvoir de Dieu, sinon Dieu lui-même. Malcolm X est une des grandes icônes des mouvements afro-américains qui luttent pour l'abolition des discriminations raciales aux États-Unis au même titre que Martin Luther King, entre autres. S'il est un fervent supporter de cette étoile montante de la boxe mondiale, ce n'est pas seulement parce qu'il voue une affection sincère à Cassius Clay. C'est aussi parce qu'il comprend très vite le potentiel qu'il peut en tirer pour le mouvement dont il est un des principaux activistes. Ce mouvement, c'est Nation of Islam, nation de l'islam, dont l'idéologie est un mélange de nationalisme afro-américain et de religion. Cette dernière est inspirée par l'islam, mais reste éloignée de l'islam orthodoxe. La Nation of Islam est considérée comme une secte par la majorité des organisations musulmanes. Celui qui dirige le mouvement s'appelle Elijah Muhammad. Autoproclamé messager de Dieu, il préconise une nation indépendante pour les Afro-Américains. Il va sans dire que les activités de l'organisation sont suivies de près par le gouvernement et scrutées, voire carrément espionnées par le FBI. C'est peu dire qu'Elijah Muhammad n'est pas vraiment en odeur de sainteté. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a proclamé que tous les non-blancs sont opprimés par les blancs et qu'il n'y a aucune raison pour que des Afro-Américains combattent pour le oppresseur blanc. Il affirme que la seule guerre à laquelle les Afro-Américains devraient participer serait celle dans laquelle les Noirs réaffirment leur supériorité légitime. Pour ses mots et ses actions, Muhammad passera 4 ans en prison de 1942 à 1946. C'est donc via son ami Malcolm X, numéro 2 du mouvement, que Cassius Clay entre dans Nation of Islam et participe à de nombreux meetings. Mais dès 1963, une lutte de pouvoir s'installe entre les deux leaders du mouvement et aboutit à leur séparation. Lorsque Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963, Elijah Muhammad, le chef du mouvement, fait une déclaration de principe pour exprimer sa désolation. Malcolm X, malgré une demande de ne pas s'exprimer, dira sa joie face à l'assassinat du président américain. dans la foulée. Il est suspendu de mouvement. Cassius Clay sera partagé entre les deux. Il finira par rester fidèle au leader de Nation of Islam et tournera le dos à Malcolm X, mais ça, ce sera après son premier titre de champion du monde. Revenons un moment à ce mois de février 1964, lorsque Cassius Clay s'apprête à défier le champion en titre pour bien comprendre l'influence de Malcolm X dans l'évolution de sa carrière naissante. Une semaine avant le combat, le dit Malcolm X débarque à Miami avec toute sa famille pour supporter Cassius Clay, s'afficher ostensiblement avec lui et peser, grâce à cet appui, dans sa lutte de pouvoir au sein de la Nation of Islam. Et c'est plutôt mal vu par l'entourage du boxeur et surtout par les sponsors blancs de Cassius Clay. Ils ne veulent pas d'un champion musulman. Il est gentiment demandé à Malcolm X de partir, de rentrer chez lui pour revenir le jour du combat. La question que tout le monde se pose à ce moment est de savoir si Cassius Clay est membre de la Nation of Islam. Les sponsors sont furieux et menacent d'annuler le combat. Cassius Clay est alors prêt à quitter la ville. Apprenant cela, les promoteurs du combat le conjurent de garder sa foi pour lui. « Ne dis pas que tu es musulman, on ne dira rien. » Mauvaise idée, très mauvaise idée de tenter de mettre un couvercle sur cette marmite en ébullition de Cassius Clay.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous sommes en compagnie de Cassius Clay, qui devient pour la première fois champion du monde de boxe en 1964. Parallèlement à cette carrière naissante, il est de plus en plus courtisé pour porter haut et fort le combat des Noirs pour leurs droits civiques. Quand Cassius Clay est déclaré vainqueur par KO au 7e round, Malcolm X y voit un signe divin, comme si Allah avait guidé le jeune Cassius sur le ring. Et pour la petite histoire, Cassius Clay fête sa victoire avec ses proches, dont Malcolm X, bien sûr, mais aussi Jim Brown, considéré comme le meilleur joueur de football américain de tous les temps, et Sam Cooke, le père de la Soul, qui sera assassiné quelques mois plus tard, à l'âge de 34 ans. Après cette victoire éclatante, Malcolm se fait de plus en plus pressant auprès d'Ali pour que celui-ci s'engage plus dans le mouvement. Le lendemain matin, lors de la traditionnelle conférence de presse, Cassius Clay déclare aux journalistes « Je crois en Allah et dans la paix. Je n'essaye pas de déménager dans des quartiers blancs. Je ne veux pas épouser une femme blanche. J'ai été baptisé à l'âge de 12 ans, mais je ne savais pas ce que je faisais. Je ne suis plus chrétien. Je sais où je vais et je connais la vérité et je n'ai pas besoin d'être ce que tu veux que je sois. Je suis libre d'être ce que je veux. » Alors qu'il s'accapare l'attention de la presse du monde entier, il conclut en disant qu'il rejoint l'organisation de la Nation of Islam. Il ajoute qu'il change son nom en Cassius X, la lettre X faisant référence au rejet de son nom d'esclave en l'absence de son véritable nom d'origine africaine. Cette pratique est courante au sein de cette organisation, exactement comme le fit Malcolm X. Il faut savoir que dans l'Amérique esclavagiste d'avant 1865, année de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, le maître imposait à ses esclaves de prendre son nom afin de les marquer comme ces choses, d'où ce rejet. Le X représente à la fois la marque appliquée sur le bras de certains esclaves et l'inconnu mathématique qui symbolise l'inconnu du nom d'origine. Un mois plus tard, les deux hommes sont invités aux Nations Unies, où ils rencontrent des diplomates du monde entier. Tout le monde veut voir Cassius. Malcolm dira « Cassius est mieux placé que quiconque pour rétablir un sentiment de fierté raciale à notre peuple, mais aussi dans le monde entier. » Les deux hommes sont inséparables. Mais on l'a dit, la rupture est consommée entre Malcolm X et Elijah Muhammad. Ce dernier demande au boxeur de ne plus fréquenter Malcolm X. Cassius finit par tourner le dos à son ami et mentor pour suivre le leader du mouvement, ce qu'il regrettera plus tard. En attendant, fraîchement converti à l'islam, c'est Elijah Muhammad, le chef du mouvement de la Nation of Islam, lui-même qui lui donne son nouveau nom de musulman. Le 6 mars 1964, Cassius Clay devient Mohamed Ali. À partir de là, la notoriété du boxeur profitera à la Nation of Islam et surtout à la cause des Noirs américains. 21 février 1965. 400 personnes se pressent dans l'Audubon Grand Ballroom, une salle immense située sur Broadway. Malcolm X s'apprête à prendre la parole au nom de son organisation, l'Afro-American Unity Organization. À peine celui-ci a-t-il le temps de saluer celles et ceux qui sont venus l'écouter de son traditionnel « Salam alaikum » que des coups de feu retentissent. Un membre des Black Muslims s'avance vers lui et tire à bout portant avec un fusil à canon scié. Deux autres individus lui tirent 21 fois dessus avec des revolvers. Malcolm X meurt quelques heures plus tard. Ali fut profondément choqué et regretta terriblement de lui avoir tourné le dos pendant longtemps. De février 64 à juin 67, parallèlement à sa carrière d'activiste, Mohamed Ali règne sans partage sur les rings en dominant la catégorie des lourds. Alors que traditionnellement, un champion du monde effectue deux combats par an, Ali combat cinq fois en 1966 pour autant de victoires, bien évidemment. Et le champion du monde va encore faire l'actualité pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son sport. En 1966, il refuse de servir dans l'armée américaine engagée dans la guerre du Vietnam et devient objecteur de conscience. Il déclare ceci. « Ma conscience ne me laissera pas tirer sur mes frères, des gens de couleur ou des gens pauvres et affamés. Et pourquoi leur tirer dessus? Au nom des États-Unis tout-puissants? Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre. Je ne tirerai pas sur ces pauvres gens. Vous m'envoyez en prison? Allez-y. J'y suis depuis 400 ans, pourquoi pas 5 de plus? Mais je n'irai pas tuer des innocents à 16 000 kilomètres d'ici. Si je veux mourir, je ferai cela ici. » Le 20 juin 1967, il est condamné à une amende de 10 000 dollars et 5 ans d'emprisonnement. Mohamed Ali ne se sent pas défendu dans son pays. Alors pourquoi aller défendre ce pays ailleurs? Mais les prises de position politique d'Ali vont nuire à sa carrière sportive. Ali fait appel et n'ira jamais en prison. Par contre, il perd sa licence de boxe et son titre de champion du monde. Alors qu'à l'âge de 25 ans, les plus belles années sportives s'offrent à lui, ce sont ses convictions qui l'emportent. C'est la traversée du désert. Il ne peut plus monter sur un ring. Les problèmes financiers vont s'accumuler jusqu'à ce que l'affaire soit résolue à son avantage par la Cour suprême en 1971. Alors qu'il est devenu champion fier et populaire, ses prises de position contre le service militaire ou sa conversion à l'islam en font l'une des personnalités les plus connues et les plus controversées de son époque. Ses apparitions publiques aux côtés des dirigeants de la Nation of Islam ainsi que ses déclarations d'allégeance font d'Ali une cible d'indignation et de suspicion. On le voit, le combat de Mohamed Ali a lieu tout autant en dehors des rings, ce qui en fait un champion à part. Il ne lâchera jamais son soutien sans réserve à la lutte contre la ségrégation raciale. 1971. Après 4 ans, Mohamed Ali récupère enfin sa licence. Au tour maintenant de son titre de champion du monde. À ce moment, le boss de la catégorie des lourds est un certain Joe Frazier. Ce dernier deviendra son grand rival, son meilleur ennemi. Joe Frazier est craint pour son style offensif, ses esquives plongeantes et rotatives et surtout pour son fameux crochet du gauche. Comme à son habitude, Ali le provoque publiquement. Il faut avouer que c'est le moins beau côté d'Ali qui insulte carrément son futur adversaire dans une émission de télévision. Visiblement, il a oublié que c'est ce même Frazier qui l'a aidé financièrement pendant ses années de galère. 8 mars 1971. Ça y est. Le grand Mohamed Ali va enfin récupérer ce titre de champion du monde dont il a été privé injustement 4 années auparavant. Ce combat, baptisé « Combat du siècle » entre deux champions invaincus, tient toutes ses promesses. Dans un Madison Square Garden plein à craquer, Joe Frazier, au sommet de son art, envoie Mohamed Ali au tapis à la 15e reprise et l'emporte au point. C'est la première défaite de Mohamed Ali et sans aucun doute, la plus dure à digérer. À partir de là, la route vers le titre suprême va être très longue. L'apothéose n'en sera que plus belle.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, nous sommes aux côtés de Mohamed Ali. Après 4 années de mise à l'écart suite à son refus de participer à la guerre du Vietnam, le boxeur a raté son comeback en étant défait par Joe Frazier, le champion du monde en titre. À après la défaite face à Fraser, une revanche est immédiatement envisagée. Mais voilà. L'histoire fait parfois de curieux détours. Un certain George Foreman entre dans la danse. Il corrige le dit Fraser en quelques rounds et devient le nouveau champion du monde. Ce sera donc lui, l'homme à battre. Mais Ali n'est pas le seul prétendant à la couronne mondiale. Il devra effectuer de nombreux combats, dont une revanche gagnée contre Joe Fraser pour devenir enfin, 3 ans plus tard, le challenger officiel du champion en titre. Jusque-là, c'est le fils du leader de la Nation of Islam qui gérait l'organisation de ces combats, mais Ali a été abandonné par le groupe pendant sa traversée du désert. Il laisse donc la place à un nouveau promoteur pour défendre ses intérêts, un certain Don King. Et la manière dont le fameux Don King parvient à séduire Ali est tout à l'image de ce personnage plus que sulfureux. En 1973, King parvient à gagner la sympathie de Mohamed Ali en organisant à Cleveland une exhibition de l'ex-champion pour réunir des fonds pour sauver un hôpital au bord de la faillite. King remporte plusieurs dizaines de milliers de dollars, mais ne donne rien de ce montant à l'hôpital qui doit fermer ses portes. Don King a 43 ans lorsqu'il obtient l'organisation de son premier événement en tant que promoteur professionnel. Et pour lui, ce n'est ni plus ni moins que la consécration mondiale. Pour organiser le fameux combat du siècle entre Mohamed Ali, le challenger, et George Foreman, le champion en titre, il n'a pas un dollar devant lui. Alors, il bluffe. Il promet au boxeur la somme de 5 millions de dollars, alors qu'il n'a pas le moindre sou. L'affaire dans le sac, il doit trouver les fonds nécessaires pour pouvoir les payer et organiser le match. Et là, il a une idée géniale. Celle de faire sponsoriser l'événement par un État étranger, le Zaïre, aujourd'hui RDC, République démocratique du Congo. Le président Mobutu y voit une opportunité unique de faire sa publicité et celle de son pays. Il finance l'intégralité des frais inhérents à la manifestation et promet de recevoir les Américains avec faste. Le marché est donc conclu. Le gouvernement zaïrois s'engage à ne prélever aucune taxe sur les recettes estimées à près de 100 millions de dollars, dont une grande part est générée par les droits de retransmission achetés par de nombreux pays. Pendant quelques semaines, Kinshasa est sous le feu des projecteurs. On y croise des célébrités du monde entier, dont James Brown et Clint Eastwood, entre autres. Le combat du siècle est programmé pour le 30 octobre 1974 au cœur du continent africain, soit exactement 10 ans après son premier titre, et une vingtaine d'années après le vol du vélo du jeune Cassius. Vous vous souvenez? Le vol grâce auquel il a commencé à boxer. Du jamais vu. 2 champions américains vont se disputer le titre suprême en Afrique. Pour promouvoir le combat dans le monde entier, Don King trouve la formule choc. The Rumble in the Jungle. La bagarre dans la jungle. Les 2 champions arrivent sur le continent africain dès le mois de juin pour s'acclimater aux conditions locales, température et humidité. La presse donne peu de chance à Ali face à Foreman, plus jeune, plus puissant. Ali a bien étudié les combats de Foreman, tous gagnés en quelques rounds, et trouve son point faible, le manque d'endurance. La clé sera donc de tenir et de faire durer l'affrontement. Il travaille son endurance via de longues sorties au bord du fleuve Congo, pendant lesquelles il est accompagné de centaines de fans déchaînés. De son côté, sûr de lui, Foreman s'exerce en salle en cognant dans des sacs et en martyrisant ses partenaires d'entraînement. Au passage d'Ali, la population quinoise scande « Ali Bomaï, Ali Bomaï, Ali Bomaï » qui signifie en lingala « Ali, tue-le ». Si Foreman est le favori des bookmakers, Ali est celui de tout un peuple, grâce à son engagement dans la cause des Noirs. Ce qui vexera Foreman, moins populaire, et qui creusera sa propre tombe au prix d'une maladresse incroyable. Celui que l'on surnomme Big George débarque en effet à une conférence de presse accompagné de son berger allemand. Ce qu'il ignore, c'est que ces traces de chiens étaient utilisées par les colons belges pour mater toute tentative de rébellion de la population. Un symbole de violence colonialiste qui ne passe pas. Pour le peuple zaïrois, ce sera donc définitivement Ali l'Africain contre George l'Américain. Avant le combat, Ali fait une nouvelle fois son cinéma habituel. Il qualifie son adversaire de momie et sort quelques punchlines d'anthologie dont la presse raffole. Ah, il ne manque pas d'imagination, c'est le moins que l'on puisse dire. Je me suis déjà battu contre un alligator. J'ai déjà lutté avec une baleine. J'ai mis les menottes à un éclair. J'ai jeté le tonnerre en prison. Ou, vous savez, je suis mauvais. La semaine dernière, j'ai tué un rocher, blessé une pierre et envoyé une brique à l'hôpital. Ou encore, je suis si méchant que je rends la médecine malade. Je peux traverser un ouragan sans me mouiller. Je peux noyer une gorgée d'eau et tuer un arbre mort. Vous en voulez une dernière ? Hier soir, j'ai éteint la lumière. Je suis si rapide que j'étais au lit avant qu'il ne fasse noir. Nous sommes le mercredi 30 octobre 1974, 3h du matin. Kinshasa, stade du 20 mai. 3h du matin ? Eh oui, pour vendre le combat au monde entier et surtout au prix fort, il faut que le match soit diffusé à une heure de grande écoute outre-Atlantique. Par contre, en Belgique, pour celles et ceux qui ont suivi le match, il fallait veiller très tard. Dans les rues, au stade, autour du ring, les cris rageurs d'un peuple enfin uni sont assourdissants. Et c'est avec ce peuple, entièrement acquis à sa cause, que Mohamed Ali, The Greatest, s'apprête à monter sur le ring. Le challenger entre en premier, acclamé par une foule en délire. 80 000 spectateurs scandent son nom et le fameux slogan « Ali Bomaï, Ali Bomaï ». Foreman fait son apparition dans un vacarme assourdissant. Le champion semble concentré et déjà dans son match. Lors du face-à-face, Ali ne cesse d'invectiver son adversaire qui reste totalement impassible. Au bord du ring, on peut voir Joe Frazer qui s'apprête à commenter le combat. À ma gauche, short blanc, Mohamed Ali, le challenger, 32 ans, 1m91, 107 kg. À ma droite, short rouge, George Foreman, 25 ans, 1m92, 118 kg. Le combat peut commencer. À la surprise de l'ensemble des observateurs, Ali, dont la mobilité est le principal atout, ne virevolte pas autour de son adversaire, comme à son habitude. Non, il passe la majeure partie du combat dans les cordes. Accepter d'encaisser face à un tel cogneur est un pari très risqué, Foreman ayant la réputation de démolir ses adversaires sans relâche. Quatrième reprise. Ali, toujours dans les cordes, continue d'encaisser les coups. Foreman semble attendre qu'Ali plie et rende les armes, comme tous les autres avant lui. Le boxeur texan domine outrageusement Ali et l'issue du combat paraît inéluctable. Ses coups sont trop puissants, trop nombreux, trop précis. Mais The Greatest n'est pas venu sur le continent africain en victime. Il sait que tout un peuple est derrière lui, que son destin, sa place dans le monde et dans l'histoire dépendent de ce combat. Alors il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il fanfaronne et utilise les mots comme autant de coups de poing ravageurs. Il s'accroche au cou de son adversaire et lui glisse quelques phrases meurtrières du style « Alors, tu vas me frapper vraiment un moment ? C'est tout ce que t'as dans le ventre ?» En agissant ainsi, Ali entre véritablement dans la tête de l'impassible Foreman qui commence à montrer de plus en plus de signes de fatigue. Il cogne de moins en moins fort. Le plan de Mohamed Ali semble fonctionner exactement comme il l'avait prévu. Face au direct, au crochet et aux uppercuts dévastateurs du champion, Ali plie, mais ne rompt pas. La foule tremble. Elle hurle pour soutenir Ali. Tout le monde s'attend à ce que le favori des bookmakers vienne enfin à bout de son vaillant challenger. La garde haute. Ali continue d'encaisser avec douleur, mais tiens bon. Rebondissant dans les cordes, il résiste et riposte par de nombreux enchaînements qui épuisent et marquent son adversaire qui n'a pas l'habitude de combattre si longtemps. Il applique donc sa tactique à la lettre. Encaisser et fatiguer son adversaire tout en lui distillant de puissants coups dès qu'il a la moindre ouverture. Il continue à invectiver son adversaire et lui répète « C'est tout ce que t'as dans le ventre ?» Peu à peu, Ali gagne le combat psychologique avant de gagner le combat tout court. Sixième reprise. Les deux champions semblent exténués. La foule, elle, est en délire. Foreman lance ses dernières forces dans la bataille. Ali utilise sa meilleure arme pour faire mal à son adversaire, son fameux jab du gauche, un coup direct avec le bras tendu qui lui permet de frapper fort tout en maintenant son adversaire à distance. À la fin du sixième round, une scène incroyable se produit, qui à elle seule montre à quel point Ali est un boxeur à part, un showman hors norme. En plein combat, il se joint aux encouragements du public qui scande son nom. Au septième round, on sent les deux boxeurs à bout de force. Foreman paraît de plus en plus perdu sur le ring. Il frappe dans le vide et encaisse les directs du droit d'Ali. C'est le tournant du match. Après avoir vainement tenté de toucher un Ali, toujours réfugié dans les cordes pendant la quasi-totalité du round, Foreman subit un enchaînement fatal. Un enchaînement de légende. Subitement reboosté à quelques secondes de la fin de la reprise, Ali assène un direct du gauche, puis du droit, qui font tomber le colosse. L'invincible Foreman est au tapis. Il est KO. Ali récupère ainsi le titre suprême, 10 ans après l'avoir conquis pour la première fois. Ce sera sa plus grande victoire tactique. Au-delà de ça, ce match démontre qu'Ali est l'un des boxeurs les plus résilients de l'histoire, capable d'encaisser les coups les plus terribles sans tomber, peut-être, hélas, au prix de sa santé. Pour les Congolais et pour le peuple africain en général, l'espace d'un soir, Mohamed Ali est devenu l'ambassadeur de tout un continent. Cela dit, ce duel de titans liera à jamais les deux acteurs du combat du siècle, qui deviendront de très bons amis par la suite. Après sa victoire contre Foreman, Ali entame un second règne qui va durer 4 ans. 4 années, durant lesquelles il défend 10 fois son titre mondial. Un an plus tard, c'est la belle contre Joe Frazer. Le combat est délocalisé à Manille et se déroule sous une chaleur suffocante de 50 degrés. Ali en sort vainqueur et confirme son titre acquis au cœur du continent africain. 4 ans plus tard, il perd son titre, puis le regagne pour une 3e fois. Il devient le premier boxeur sacré 3 fois chez les lourds. Ses plus belles années derrière lui, il prend définitivement sa retraite en décembre 1981. En 1984, à 42 ans, une nouvelle épreuve s'annonce pour le triple champion du monde. Il doit affronter la maladie de Parkinson. En 2005, le président américain George W. Bush lui remet la Medal of Freedom, la plus haute distinction civile aux États-Unis. En 2016, Ali quitte définitivement la scène et rejoint, pour toujours, le panthéon des boxeurs, où l'attend déjà Joe Frazer, son meilleur ennemi, disparu 5 ans plus tôt. Mohamed Ali était un champion d'exception, un homme du peuple dont la stature dépasse largement le monde de la boxe et du sport. Showman extraordinaire, aussi bien sur le ring qu'en dehors. Ses luttes contre l'injustice, la ségrégation, les violences faites aux Noirs et aux plus défavorisés en général ont été le moteur de son existence, parfois au détriment de sa carrière. Mohamed Ali n'a jamais abandonné son vrai combat. Un combat toujours d'actualité, à l'heure où les mêmes injustices, les mêmes violences continuent d'embraser régulièrement une nation qui est loin d'avoir fait la paix avec les périodes les plus sombres de son histoire. Le mouvement Black Lives Matter en est la plus récente illustration. L'histoire retiendra l'image d'un homme qui avait une gueule aussi grande que son talent. Et comme le dernier clin d'œil d'un homme qui a toujours été au bout de ses idées, il est amusant de noter que Mohamed Ali est la seule star à ne pas avoir d'étoile sur le Walk of Fame, le fameux trottoir des célébrités d'Hollywood. En réalité, il est le seul dont l'étoile n'est pas au sol, comme le veut la tradition. Non, la sienne a été accrochée au mur de la façade de l'entrée du théâtre Dolby où se déroule la cérémonie des Oscars. C'est la seule exception. Pourquoi ? Parce que Mohamed Ali ne voulait pas que son nom soit écrasé par des gens qui ne le respectent pas. Voilà donc pour l'histoire de ce destin hors norme, écrit grâce à la plume de Thierry de Soif.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.